RFI, grand reportage, Laurence Adou.
La guerre dans l'est de l'Ukraine a poussé des centaines de milliers de personnes à fuir leur foyer. Près de 800 000 sont partis à l'étranger, notamment en Russie, mais un plus grand nombre a décidé de rester en Ukraine. Selon l'Office de l'ONU pour les réfugiés, 1 236 000 Ukrainiens sont aujourd'hui enregistrés comme déplacés internes. L'État ukrainien a bien du mal à faire face à cette situation et les associations caritatives tentent de remédier à ces défaillances. Le gros des déplacés se concentre dans les zones proches du conflit et en particulier dans les régions de Donetsk et de Kharkiv. Grand reportage signé Anastasia Becchio, que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
La gare de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine. Dans le grand hall d'entrée au plafond décoré de fresques historiques, un écriteau guide les nouveaux arrivés vers le centre d'aide aux déplacés. Vladimir et Natacha viennent d'Ambrosivka, au sud-est de Donetsk. Les combats s'y sont tus depuis quelques mois, mais la situation devenait délicate pour Vladimir.
Les combattants de la République populaire de Donetsk ont commencé à me rendre visite et m'inviter gentiment à rejoindre leur rang. Mais moi, je ne veux pas aller combattre et puis j'ai 4 enfants. Si je mourais, qui prendrait soin d'eux? Mais eux m'ont dit comme ça, si tu ne veux pas venir avec nous, c'est la vie qui t'y obligera. De toute façon, tu finiras par aller combattre. Alors je me suis dit qu'il valait mieux partir de là-bas.
Vladimir et Natacha sont parents de 4 enfants, dont le plus jeune a 7 mois. Arrivés dans la nuit, ils ont été pris en charge par des volontaires. Ils n'en sont pas à leur première tentative d'exil. L'été dernier, lorsque leur maison a été endommagée par des tirs d'obus, ils ont fui en Russie.
On était juste à côté de la Russie et de toute façon, il n'y avait pas de possibilité de fuir ailleurs. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés là-bas. On a pas mal bougé en Russie, mais on a senti qu'on n'était pas vraiment les bienvenus. Il n'y avait pas de travail pour nous. La seule chose qu'on nous proposait, c'était de nous envoyer dans l'extrême-orient, dans les régions de la Kolyma, de Magadan et de Khabarovsk. Ici, on sera mieux et au moins ici, on n'a pas peur.
Tu arrives ici et tu tombes sur des personnes très accueillantes. Tout le monde essaye de t'aider. Alors que chez nous, on n'entendait plus que des grossièretés.
Au fond d'une grande salle d'attente de la gare, l'association Station Kharkiv a déployé son centre de crise depuis l'été dernier. 7 tables alignées et un comptoir avec cette inscription en rouge, tout ira bien. Ici, des volontaires et un représentant du ministère des situations d'urgence se relaient 7 jours sur 7 pour guider les personnes déplacées dans leur démarche. L'énergique Alla Fetchenko, femme d'affaires et volontaire de l'association, coordonne l'accueil dans ce lieu qui a vu près de 600 personnes affluer quotidiennement en janvier et février dernier. Avec 181 000 déplacés enregistrés, Kharkiv et sa région ont depuis longtemps épuisé les capacités d'accueil. Les nouveaux venus sont orientés vers d'autres régions.
Actuellement, le flot d'arrivants a nettement diminué, mais on accueille quand même encore 20 à 30 personnes par jour. Tout le monde veut rester à Kharkiv. D'abord, c'est plus près de leur maison. Ensuite, c'est une question de mentalité. C'est une ville russophone. Or, la propagande a très bien fait son œuvre. Les gens ont peur que s'ils ne parlent pas ukrainien dans des régions ukrainophones, ils auront des ennuis. En plus, on leur a fait croire qu'on ne les aimait pas dans ces régions et qu'on allait les stigmatiser. En réalité, tout cela est faux.
Une artère fréquentée au sud de Kharkiv. Des enfants jouent sur une aire de jeu flambant neuve installée au milieu d'un village de préfabriqués blancs. Le site d'hébergement transitoire offert par le gouvernement allemand a ouvert ses portes fin janvier. Aujourd'hui, 83 familles y vivent, soit 387 personnes. Elles s'acquittent d'un loyer mensuel très modeste de 100 hryvnias, soit environ 4 euros par personne. Alexandre Ortinsky a fui Lugansk avec sa femme Tatiana et leurs 6 enfants.
C'est pas mal ici, mais il y a peu de place. On a déjà de grands enfants, des adolescents qui ont besoin d'espace. Or, on n'a que 24 mètres carrés. Mais c'est déjà ça, grâce à Dieu. On dort tous ici, sur ces 4 lits superposés. Ma femme et moi sur un lit et les enfants, 2 par 2, fille avec fille, garçon avec garçon.
En dépit du manque de place et de la difficulté de trouver un emploi, Alexandre, qui possédait une imprimerie à Lugansk, ne pense pas pouvoir partir d'ici rapidement.
On est un peu perdu, on n'a nulle part où aller. Rentrer chez nous, même si le cessez-le-feu continue de tenir, il n'y a plus aucune infrastructure là-bas. Mes parents, restés à Lugansk, racontent que les écoles fonctionnent. Mais après 17h, il n'y a plus personne dans les rues. Ça devient une ville morte. Et puis, il y a les couvre-feux, les fusillades. Non, vraiment, je veux pas de ça pour mes enfants. Je veux qu'ils vivent de manière civilisée. Je ne veux pas que le jour où ils auront une entreprise, par exemple, on puisse venir la leur retirer comme ça. Je veux qu'ils vivent dans un monde honnête.
En arrivant, les habitants du village de préfabriqué signent un bail de 6 mois, mais beaucoup devraient le prolonger à échéance. Sergueï Chcherbina est responsable régional de l'accueil des déplacés au sein du ministère des situations d'urgence.
On pensait que ce serait des logements provisoires, des hébergements d'urgence. On se disait, les personnes vont y vivre 1 ou 2 mois et puis trouveront un autre logement. Mais on a beaucoup de gens ici qui prévoient de rester assez longtemps. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'ils n'ont plus de maison. Et ici, ils n'ont pas les moyens financiers de trouver un autre logement. Ils ont parfois même trouvé un emploi, mais ils ne peuvent pas se permettre de louer un appartement ici.
Une petite maison blanche flanquée d'un drapeau ukrainien au fond d'une cour dans le centre de Kharkiv. L'antenne locale de l'ONG Frontières ukrainiennes accueille aujourd'hui plusieurs dizaines de personnes venues défendre leur projet. L'UNICEF et l'Office international des migrations distribuent des bourses aux déplacés qui développent des projets de micro-entreprises. Auparavant, les candidats ont pu suivre une formation dans ces locaux. Victoria Boulavina, responsable de l'association.
D'abord, on a organisé des stages de formation de 2 jours destinés à développer les capacités de prise d'initiative. Ensuite, durant 3 semaines, les participants rédigent leur projet. Et là, actuellement, c'est un moment très important pour eux parce qu'ils passent devant un jury pour défendre leur projet. S'ils arrivent à être convaincants et que le jury décide de soutenir leur projet, les participants ont alors la possibilité de toucher une bourse pouvant aller jusqu'à 650 euros.
Parmi les 600 candidats à cette bourse, Olga et Stas, 28 et 29 ans, viennent juste de passer devant le jury. Ils ont fui les combats à Gorlivka, au nord de Donetsk, en novembre. Avant la guerre, ils possédaient une entreprise de machines à café automatiques qu'ils cherchent à remonter à Kharkiv. En attendant de pouvoir relancer leur affaire, Stas travaille comme taxi. Olga, elle, a abandonné l'idée de trouver un travail décemment payé.
On dit que les déplacés sont paresseux, mais c'est faux. Simplement, on se voit offrir des boulots pour 1200 grivnas. Et ça ne suffit même pas à se nourrir pendant une semaine. C'est vraiment très peu. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup de déplacés, mais on trouve très peu de travail. Et surtout, ce travail est très peu payé. Si on nous offrait un travail rémunéré normalement, on irait avec plaisir, parce que l'aide sociale qu'on touche en tant que déplacé, ce n'est vraiment pas suffisant.
Le travail, il n'y en a pas beaucoup plus à Kramatorsk, à 200 km au sud de Kharkiv. Cette cité industrielle de la région de Donetsk, à 70 km de la ligne de front, accueille aussi des déplacés en nombre. L'ancienne place forte séparatiste a été reprise par l'armée ukrainienne l'été dernier. Pour faire face à l'afflux de réfugiés dans cette ville de 200 000 habitants, l'ONG Caritas y a ouvert un bureau avec à sa tête le père Vassil Ivaniouk, prêtre de l'église gréco-catholique, portant soutane noire et croix pectorale.
En 2 mois, on est venu en aide à 3600 personnes. On ne laisse partir personne de ces bureaux sans leur avoir prodigué une aide quelconque. On essaye d'aider tout le monde. Dès que les bombardements reprennent là-bas, on a des arrivées massives de gens qui fuient la guerre. Mais une fois ici, les gens veulent repartir chez eux. C'est ce qui ressort le plus souvent des discussions. Mais pour l'instant, il n'est pas possible de rentrer. Tout le monde en a marre de cette guerre. Ce n'est pas notre guerre.
Une cage d'escalier délabrée, un ascenseur hors d'âge. C'est dans un 3 pièces au 3e étage d'un immeuble d'un quartier populaire de Kramatorsk que Lilia, son mari et leurs 7 enfants, de religion baptiste, ont trouvé refuge après avoir quitté Makiivka, tout près de Donetsk.
On est parti le 26 octobre de notre ville de Makiivka. On a décidé de partir parce qu'il y avait des explosions très intenses tout près de chez nous. Ça bombardait fort. Les enfants ont mal vécu ce déplacement. Ça n'est pas tant le manque de nourriture en réalité. Ils n'ont jamais été affamés, mais simplement ils disent « on veut rentrer à la maison, on veut revoir nos jouets, notre église, notre maison ». Leur grand-père, leur grand-mère sont tous restés là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, il leur arrive de pleurer. Mais je leur ai dit « on doit vivre ici ». Là-bas, c'est dangereux. Là-bas, ça bombarde.
L'aînée de la famille, Natacha, 15 ans, joue un air avant de partir à sa leçon de violon. Faute de piano qu'elle pratiquait à Donetsk, elle se concentre sur cet instrument. Les grands sont tous scolarisés, mais leurs résultats sont moins bons ces derniers mois, explique Lilia, la maman, assise sur un tabouret pour donner la tétée à sa petite dernière, Masha, 1 an. Les plus jeunes jouent à la balle dans une pièce quasi vide. La famille reçoit régulièrement la visite de Tatiana, travailleuse sociale chez Caritas.
Pour louer un logement moins cher, il faut le prendre sans meubles. Du coup, je fais ce que je peux pour les aider à trouver des choses.
Sans votre aide, celle d'associations comme Caritas, ils pourraient s'en sortir ?
Non, ils ne tiendraient pas. Parce que l'argent que leur verse l'État, c'est très peu. Et en plus, cet argent ne vient pas tout de suite. Les personnes déplacées doivent attendre 2 mois avant de toucher leurs premières allocations. Durant ces 2 mois, ils doivent vivre sans argent, sans travail. C'est très difficile de trouver un travail quand tu es une personne déplacée. Ou alors, il faut accepter d'être employé au noir, pour un salaire inférieur aux autres.
André, le père de famille, ne trouve que de petits boulots pas déclarés, ce qui l'empêche de toucher l'aide de l'État ukrainien dévolue aux personnes déplacées. Lilia, elle, doit composer au quotidien avec leurs faibles moyens.
On est arrivé ici sans rien. Ce mois-ci, Caritas nous a aidés en nous donnant un peu d'argent, Dieu merci. Avec ces 1800 grivnas, on a pu acheter des chaussures pour les enfants parce qu'on n'avait plus rien à leur mettre. On est passé de l'hiver à l'été quasiment et ils n'avaient pas de chaussures convenables. Venez, je vais vous faire visiter. Ici, je prépare à manger. Heureusement, on nous a donné cette cuisinière. Et là, le bruit que vous entendez, c'est le frigo. Il ne fonctionne plus et du coup, je ne peux pas conserver les denrées. On n'a pas d'argent pour racheter un frigo. J'ai honte. Ici, il n'y avait rien. On nous a donné cette table et cette armoire. L'appartement était vide. Ici, c'est la chambre à coucher. On met les matelas sur le sol. Je dors par terre avec mon mari. Certains enfants aussi. Dans ce lit, on met 2 enfants, dans celui-ci, 2 autres. Ici, on a la salle de bain, la machine à laver a rendu l'âme. On n'a pas d'eau chaude, alors je fais bouillir de l'eau et je la porte dans des bassines pour baigner les enfants.
Tatiana, la travailleuse sociale de Caritas, poursuit sa tournée dans un autre quartier de Kramatorsk. Elle va rendre visite à Lina. Avec ses 2 enfants, cette jeune femme de 28 ans, originaire de Donetsk, habite dans un logement collectif. Elle partage les sanitaires et la cuisine avec d'autres familles. Dans la chambre, 2 lits simples, un petit tapis au sol, des murs au papier peint défraîchi. Du linge sèche sur 2 fils tendus en travers de la pièce.
J'étais déjà venue ici une première fois, c'était avec mon mari. On n'était pas dans cette pièce, mais c'était dans cet immeuble. On était arrivés en août et en septembre, on a voulu rentrer chez nous. Le responsable de l'immeuble a tenté de nous convaincre de rester, mais on a fini par repartir parce qu'on nous avait dit que la situation s'était calmée et qu'on pouvait revenir sans problème. Alors on est rentré et une semaine après, mon mari a été tué. La veille, il y avait eu des bombardements massifs et mon mari a eu peur pour nous et il m'a dit « Pars chez ta mère dans le quartier voisin de Kirov et moi je vous rejoindrai demain après-midi ». Le lendemain, vers 14h, je reçois un coup de fil. On m'annonce que mon quartier a été bombardé et que mon mari a été emmené en ambulance à l'hôpital. On m'a dit ensuite qu'il n'avait aucune chance de s'en sortir. Et il est mort le 6 novembre. Comme je suis un peu superstitieuse, j'ai décidé de rester à Donetsk pendant les 40 jours de deuil. J'ai tenu de toutes mes forces parce que ça bombardait vraiment très fort. On dormait dans le couloir avec les enfants. Ensuite, ma mère a insisté pour que je parte et on a fini par revenir ici. En fait, j'aimerais vraiment rentrer chez moi parce que c'est dur.
Moi aussi, je voudrais revenir dans ma petite maison. Je veux rentrer, mais il faut qu'ils arrêtent de tirer parce qu'ils font peur à tout le monde.
Oui, elle a très peur. Elle a 5 ans et elle fait pipi dans son lit. Là-bas, elle était propre, mais depuis les événements, tout va de travers. En plus, elle pose souvent des questions sur son père. Et moi, je ne sais pas quoi lui répondre. Au début, je n'arrivais même pas à la regarder parce qu'elle ressemble énormément à son père. C'est le même visage. Je sais pas, je n'arrive pas à comprendre qui a besoin de cette guerre. Aujourd'hui, je vais vous dire, je me fiche de savoir qui sera au pouvoir. Je veux simplement le calme et la paix.
À l'autre bout du couloir, Roman, 39 ans, mécanicien, vit seul avec son fils Sergueï, 9 ans. Ils ont fui les combats de Gorlivka au nord de Donetsk en juillet dernier. Sergueï va à l'école et s'est fait des amis dans l'immeuble collectif. Roman est régulièrement employé sur des chantiers, mais si les choses s'arrangent peu à peu, il hésite encore à poser définitivement ses valises à Kramatorsk.
À l'automne, c'était difficile pour nous, on a même eu un peu faim. Aujourd'hui, ça va un peu mieux parce qu'on touche une aide de l'État et des organisations caritatives. Mais au fond de mon cœur, je n'arrive pas à être tranquille. Je pense que la guerre peut venir jusqu'ici. J'ai peur qu'ici, il se produise la même chose que chez moi. Et c'est pourquoi je n'arrive pas à m'enraciner trop profondément, parce qu'il se peut qu'il nous faille partir une nouvelle fois.
Ukraine, le sort des déplacés, un grand reportage d'Anastasia Becchio, réalisation Swell Kedir.
Anastasia Becchio, bonjour.
Bonjour Laurent.
Vous êtes l'auteur de ce grand reportage. Alors on vient de l'entendre, hein, ces témoignages de personnes qui ont dû fuir les combats et qui se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles. Peut-on parler aujourd'hui de crise humanitaire en Ukraine ?
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon les données des agences des Nations Unies, il y a aujourd'hui 1 236 000 déplacés en Ukraine et 5 millions de personnes qui ont besoin d'une aide vitale pour se loger, pour se nourrir ou se soigner par exemple. C'est une crise qui n'est pas aussi visible que d'autres crises humanitaires ailleurs dans le monde. On n'a pas de grands campements de tentes, on n'a pas de sans domicile fixe dans les rues. Quand on se promène à Kharkiv par exemple, rien ne permet de dire que cette ville d'un million d'habitants accueille 180 000 personnes qui ont fui la guerre à seulement 200 km de là. Et 180 000, c'est une évaluation basse puisqu'il s'agit des personnes officiellement enregistrée auprès des autorités locales. Et pourtant, la pression sur les villes d'accueil est énorme, pression sur les services médicaux, sur le marché du travail ou encore sur le marché de l'immobilier.
Alors, comment ces personnes sont-elles prises en charge ?
Lorsqu'elles s'établissent dans une ville, ces personnes s'enregistrent auprès des services sociaux locaux. C'est le ministère des situations d'urgence qui est chargé de coordonner toutes les questions liées aux personnes déplacées. Au bout de quelques semaines, les personnes dont le statut de réfugié a été reconnu touchent une prime mensuelle d'une quarantaine d'euros par personne, ce qui est bien sûr loin d'être suffisant pour survivre, et ce qui parfois alimente le ressentiment de ces populations vis-à-vis des autorités ukrainiennes. C'est là qu'entrent en jeu les volontaires ukrainiens et les organisations caritatives qui distribuent de l'eau, de la nourriture, des produits d'hygiène et parfois même des sommes d'argent aux déplacés. Mais les moyens restent limités, les besoins énormes. L'Office de coordination des affaires humanitaires de l'ONU estime que seuls 15 à 20% des besoins sont aujourd'hui couverts. Or, il faudrait pouvoir mobiliser 356 millions d'euros.
Alors actuellement, la situation est relativement calme hein, sur le front. Le cessez-le-feu est plus ou moins respecté. Et pourtant, on l'a entendu dans votre reportage, des familles continuent d'arriver hein, tous les jours dans les villes épargnées par la guerre.
Oui, et les raisons sont diverses. Il y a des raisons économiques. Tout d'abord, à Donetsk, par exemple, les prix ont été multipliés par deux. À Lugansk, c'est encore pire. De nombreuses usines ont fermé, il y a peu de travail et l'État ukrainien n'y paye plus les pensions et les allocations depuis maintenant plus de 6 mois. Il y a ceux qui vivent dans des zones où les combats ne se sont pas vraiment tus. À Gorlivka, au nord de Donetsk, par exemple, il y a encore très souvent des bombardements et beaucoup continuent donc de fuir ces régions. Les volontaires et les associations caritatives redoutent d'ailleurs fortement une nouvelle phase d'opération militaire qui jetterait encore sur la route des dizaines de milliers de personnes qui arriveraient massivement dans les villes où là les capacités d'accueil sont déjà dépassées.
Ce sera le mot de la fin. Grand reportage à réécouter sur
RFI.fr.
Dans son intégralité, bien entendu. Merci beaucoup, Anastasia.